Rencontre sauvage avec Vincent Fournier, artiste et photographe, un podcast du Musée de la chasse et de la nature. Vincent Fournier, quelle serait votre première rencontre sauvage ?
En fait, ça coïncide avec mon premier souvenir. Et mon premier souvenir, c'est une rencontre avec des éléphants. Ça se passe en Afrique, c'est 4 ans, 3-4 ans. Je suis à l'arrière d'une voiture, je suis avec mes parents, dans la brousse près de Ouagadougou. Je vois surgir des éléphants qui nous chargent. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est mon premier souvenir, parce que c'est une émotion assez forte, surtout pour un enfant. Je vois cette scène à distance depuis la fenêtre en fait arrière. Donc s'il y a déjà l'idée d'un... Je suis photographe, donc je fais un lien assez évident, mais de cadre en fait, parce que c'est cadré au travers de la fenêtre arrière comme une sorte de panoramique. Donc voilà, c'est une image fugace qui est surtout mélangée, teintée de toutes ces émotions. J'étais assez impressionné, c'est mon premier souvenir qui est voilà, associé à ce monde sauvage, si on peut dire, d'éléphants en Afrique où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 6 ans.
Et est-ce que vous avez continué à avoir un lien au sauvage une fois que vous avez quitté le Burkina Faso ?
On a emménagé en Bretagne. J'ai passé beaucoup de temps dans la nature, dans les champs, dans la campagne et dans des cabanes dans lesquelles je faisais mes petits observatoires. J'avais des jumelles, j'avais une longue vue et je passais beaucoup de temps à observer. J'avais essayé d'apprivoiser un hérisson, un serpent, enfin voilà, ce genre de choses. Et quand j'arrivais dans cette cabane, je passais devant un puits, il y avait une salamandre qui était là aussi. Pas vraiment un monde sauvage, mais c'est le monde de la campagne. Il y avait un champ un peu en creux, et au centre, il y avait un arbre qui était ouvert quasiment aux deux, dans lequel j'allais parfois là-bas, en fait. Et il y avait cette idée d'être enveloppé comme ça dans cet arbre énorme qui avait été ouvert, qui craquelait de partout. Et j'avais dû mettre des trucs là-dedans, d'ailleurs, je crois. Donc voilà, j'ai ce souvenir-là aussi.
De quelle manière, Vincent Fournier, le monde de l'enfance et le monde de la nature, du sauvage, sont arrivés dans votre travail artistique ?
Alors, il y a un fil conducteur, mais qui s'est fait beaucoup plus tard. C'est remonté à la surface assez tardivement, en fait. Mais effectivement, elle était là, en fait. Puis on se nourrit... Enfin, moi, je me nourris beaucoup de mes souvenirs d'enfance, qui sont à la fois liés à cette nature très proche. On était vraiment en plein dans la... On était entouré de champs, en fait. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de voisins, très isolés. Donc, vraiment une nature très proche. Et à la fois, j'ai grandi dans les années 80, où on était... bercé par toute cette représentation du futur, il y avait vraiment cette histoire de l'an 2000. Et donc moi je regardais aussi beaucoup la télévision, donc des séries comme Cosmos 1999, L'homme qui valait 3 milliards, voilà, de plein de choses comme ça, qui m'ont aussi beaucoup inspiré et que je retrouve dans mon travail. Donc il y a vraiment un trait d'union, effectivement. Mon enfance est très présente dans mon travail. Après, ça se superpose avec l'expérience que j'ai maintenant, mais voilà, je me suis vraiment saisi de ça comme un matériau pour enrichir mon travail de ça. Il y a aussi le contexte hein, qui fait ça, c'est-à-dire qu'on est quand même de plus en plus préoccupé par ce qui se passe dans notre planète. Moi, je suis très intéressé par la représentation du futur, tout cet imaginaire lié au futur, qui est un peu en panne en ce moment, quand même. Et il y a cette idée d'un futur qui pourrait être aussi un passé. Et donc, je ne sais pas, il y a cette espèce de retour à la fois à un passé, et aussi, ça me renvoie aussi moi-même à mes images d'enfance dans la nature. Et je redécouvre ça et je sais pas, je m'en nourris. Enfin, c'est quelque chose qui est devenu présent, qui est remonté comme ça aussi, du fait du contexte aussi, je pense.
Je pense là à certaines photos que vous avez faites où on voit justement des animaux dits sauvages, que ce soit la baleine, que ce soit une panthère. Elles n'appartiennent pas complètement à la réalité. Donc comment est-ce qu'on pourrait les décrire, ces photos d'animaux sauvages que vous faites ?
Il y a deux parties dans ce travail-là. Il y a une partie qui s'appelle Post-Natural History, qui raconte l'histoire d'espèces qui ont été augmentées par la main de l'homme mais toujours lié à l'idée de naturalisme. Donc on retrouve des scénarios liés au territoire, à la prédation, etc. Donc je mélange à la fois le naturalisme et puis les nouvelles technologies, le fait qu'on puisse reconfigurer le vivant, avec notamment les fameux ciseaux génétiques. Donc je fais une espèce de rencontre improbable entre le surréalisme, les ciseaux génétiques, le cadavre esquisse. Voilà, je mélange tout ça avec cette idée quand même de toujours lier à, même si c'est post-naturalisme, ça, c'est quand même lié au naturalisme. Et l'autre série, Octus Animalis, elle s'est un peu affranchie de cette idée naturalisme. On est plus du domaine du poétique. Enfin, j'ai poussé le curseur de l'imaginaire plus loin, tout simplement. Donc la base, ça reste vraiment le vivant. Un vivant qui est augmenté de manière à la fois spéculative, donc liée aux technologies, mais en même temps de manière poétique. C'est-à-dire tout simplement célébrer la beauté, le vivant, dans ce qu'il a aussi de merveilleux, d'unique. C'est un autre regard, en fait. Ça, c'est plus récent aussi comme approche.
Alors si on prend la panthère, est-ce que vous pourriez nous décrire votre panthère à vous ?
C'est une panthère nostalgique, mélancolique. En fait, elle porte sur elle une constellation, c'est la constellation Octus Animalis, qui veut dire animal augmenté. Et donc c'est une panthère qui est nostalgique de la constellation d'où elle vient. C'est une fable, c'est un récit initiatique qui s'appelle Octus Animalis, et toutes ces espèces sont des créatures hybrides, donc elles sont entre deux mondes, elles ne trouvent pas véritablement leur place sur Terre, et pour retrouver une espèce d'équilibre, elles vont se transformer en étoiles. Donc on est vraiment dans l'imaginaire et dans le récit. Et cette idée d'étoile, de constellation qui lui manque en fait, cette espèce de désir de retourner, ça renvoie aussi à l'histoire du mot désir, l'étymologie du mot désir, qui vient de desiderare et qui veut dire manquer l'étoile. Donc désirer, c'est regretter l'absence de l'étoile. Donc c'est comme si, comment dire, on était tombé du ciel et qu'on avait envie d'y retourner. Donc il y a cette idée aussi d'appartenance au ciel. On est constitué d'étoiles et donc on a un manque de cette étoile. Donc voilà, je joue sur cette histoire-là.
Qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire sur cet éléphant constitué d'un pelage fait de plumes? Est-ce que ce sont des plumes argentées d'ailleurs?
Alors oui, elles sont argentées, oui, c'est un éléphant à plumes. Donc chaque espèce, chaque animal dans ce bestiaire a un rôle. Hein. L'éléphant à plumes, quand il se secoue, il crée une longueur d'onde qui vient parasiter en fait le signal qui pourrait faire que l'île Octus Animalis soit détectée. C'est lui un petit peu le gardien de l'île, il vient préserver l'anonymat de cette île qui doit être inconnue, invisible. Mais l'idée c'était de créer un conte, voilà, tout simplement, avec toutes ces espèces et de parler du vivant, de notre relation au vivant, avec une dimension à la fois contemporaine liée effectivement encore une fois aux technologies, mais aussi au côté magique et de le faire rentrer dans cette dimension du merveilleux.
Pour vous, réinventer le vivant, ça vous permet quoi ?
Dans cette idée de réinvention, il y a cette idée aussi de cycle, de transformation et d'ouvrir, en fait, d'ouverture, que je trouve assez important en ce moment parce qu'il y a un imaginaire qui est en panne. Et puis on est un petit peu dans une période de transition parce que tous ces imaginaires du futur qui ont été construits, fabriqués, en fait, on est traversé toutes ces références. Ils viennent beaucoup du XXe siècle et ils sont peut-être un petit peu fatigués. Et c'est vrai que ce serait intéressant de les réinventer pour proposer d'autres modèles, non pas de vouloir les nier, mais au contraire de proposer des alternatives, faire d'autres propositions.
À partir du moment où l'animal est augmenté, est-ce que selon vous, il reste sauvage ?
Forcément non. Non, il est augmenté, donc il est en partie... Enfin, c'est la main de l'homme qui rentre dedans, donc il a été apprivoisé de manière totalement artificielle. Donc il est plus sauvage. Après, ça renvoie à la question de qu'est-ce qui est sauvage, qu'est-ce qui n'est pas sauvage, dont les frontières sont assez floues, surtout en ce moment où on se rend compte que le vivant est quelque chose qu'on peut reconfigurer, transformer, donc ça... C'est une question dans une question, en fait. Il n'y a pas de réponse, véritablement, je pense, à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est à la frontière d'un nouveau rapport au vivant qui fait qu'on... ça nous renvoie aussi à la question de l'humain. C'est un miroir, en fait, hein, avec beaucoup d'interrogations, de peurs, de craintes, mais aussi d'envie. Enfin, il y a un côté très fascinant là-dedans. C'est assez vertigineux. Il n'y a pas de réponse.
C'était La Rencontre Sauvage de Vincent Fournier, un podcast du Musée de la Chasse et de la Nature, réalisé par Céline Duchesnay et Laurent Polleret.